Alors, à moins que j'ai pas bien tout suivi, ce qui est fort probable, je retrouve pas dans les textes conciliaires la notion de partage fraternel de la parole. Cette lecture qu'on fait ensemble, et puis chacun exprime comment ça lui parle, ce que ça lui dit.
Non, mais en fait, c'est comme toujours. Là, vous voyez, il y a 6 lignes hein, du concile, donc c'est très très peu. Mais c'est en filigrane. Ce qui est le sommet, on pourrait dire, de l'accueil de la parole par le peuple de Dieu, c'est donc la messe, on pourrait dire, le sommet, la source. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas de partage de la parole, mais en fait, si, on en fait quand même. Pas dans les modalités que l'on fait ici, bien sûr. Mais c'est bien la parole qu'on écoute, qu'on partage, parce que tout le monde entend la même parole. Et puis à cette parole, on répond. On répond par le psaume. Donc normalement, c'est l'assemblée qui dit le psaume, qui chante le psaume. Donc on répond à la parole de Dieu par la parole de Dieu. Donc une sorte de dialogue par la parole de Dieu qui doit se faire, qui est un peu masqué aujourd'hui. Par le petit refrain, quoi. Donc on dit un petit refrain, mais en fait, c'est pas ça du tout qu'on doit faire. Et puis, cette réponse, elle se déploie dans le credo, donc une sorte de réponse de foi. La parole vient et nous répondons par la foi, par le credo, qui du coup va, parce qu'on est unis au Christ par la foi, par le credo, eh bien on est unis à sa prière et c'est la prière universelle. Donc la liturgie de la parole s'achève en quelque sorte par la prière universelle.
Ok, mais ça c'est une construction liturgique, enfin c'est un rite, oui. Mais je trouve que c'est complètement différent de se mettre ensemble comme on le fait le mercredi, ça n'a rien à voir.
Oui. Non, mais disons que la source c'est effectivement le partage de la parole. Alors qui va se vivre ensuite de façon, justement, la liturgie ce n'est que la liturgie, c'est le sommet ce n'est que le sommet, la source ce n'est que la source. Donc ça va se déployer, et là, dans une grande liberté, le principe c'est de partager la parole dans la communauté. Et la liberté, elle est totale, après, sur la manière de le faire. Et c'est à nous d'être inventifs, d'être créatifs. Il faut dire quand même que la vie chrétienne, et notamment la vie monastique, nous aide beaucoup. Alors, dans un texte que je vous ai donné, c'était au tout début, c'est il y a longtemps, de Benoît XVI, son discours aux Bernardins, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il parle, voilà, donc il parle de la vie monastique et de la racine de la vie monastique qui, au VIe siècle, a reconstruit l'Europe, ou a construit l'Europe, qui est de chercher Dieu en scrutant la parole de Dieu. Et il dit de scruter Dieu, de chercher Dieu en scrutant la parole de Dieu, communautairement, cette scrutation engendre la communauté, construit la communauté. Il dit, cette écoute mutuelle engendre la communauté, crée les relations. Donc voilà, donc le magistère, ici Benoît XVI, et d'autres textes, notamment dans... Verbum Domini, l'encyclique de Benoît XVI sur la parole de Dieu, déploie ça. Et puis il y a la pratique de l'Église, vous voyez, qui fait aussi que ça se fait. Ben, Césaire d'Arles, au IVe siècle, qui exhorte les familles à le faire, ou plus récemment maintenant, je ne sais pas, des communautés charismatiques, ou les cellules d'évangélisation de Don Pidgey. Ça, c'est vraiment la liberté des chrétiens. Hein, Mais ce qui est important, je trouve, quelle que soit la méthode, c'est de bien comprendre pourquoi on l'a fait. Quel est le fondement de la méthode? Sur quoi ça s'appuie? Dans les Écritures, dans la tradition, dans la connaissance de l'homme. Donc ça, vraiment, j'essaie de m'y employer dans ce qu'on fait ici. Hein. Reprenez un petit peu les différents trucs. Et puis, dans la Fraternité Emmaüs, aussi, on sera très attentif le 25 février à bien vous expliquer... Pourquoi on vous propose de faire comme ça? Quelle en est la raison? Pour que vous soyez plus libre de l'accepter, de le trouver intéressante, de l'amender ou de réagir, et puis aussi d'en parler. Si on ne sait pas pourquoi on fait ça, c'est difficile d'en parler aux autres, finalement.
Alors nous, c'était beaucoup plus terre à terre. C'était dans le point Sacrum Sanctum Concilium numéro 1. Ouais. Nous avons discuté sur les autres. Manifeste aux autres le mystère du Christ. Ces autres, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur?
Attends, je regarde moi-même. Parce que... à ce que les fidèles en la vivant expriment et manifestent aux autres le mystère de Christ. Mmh. Moi, je pense que c'est ceux qui sont en dehors, je pense quand même. Aux autres, le mystère. Sinon, ils auraient dit les uns les autres, les uns aux autres.
Mais en la vivant, donc ça voudrait dire que l'extérieur la vit.
Non. C'est les fidèles qui la vivent, justement. C'est pour ça que je l'ai mis... Enfin, je l'ai mis en rouge, mais ça se voit pas. C'est la montagne, en fait. C'est-à-dire qu'en la vivant dans la vie, eh bien, alors, c'est manifesté aux autres. C'est l'Eucharistie vécue, quoi. C'est ça que ça veut dire, je pense. Ouais. Ça va, comme ça ? Puis vous avez le droit de réagir ou de trouver ça bizarre ou... Enfin, ça peut peut-être vous paraître très étrange, cette espèce de soucoupe volante. Enfin, voilà, réagissez.
Oui, dans notre groupe, on a eu un peu de mal avec la phrase « Lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu. »
Ouais, très bien. Alors, c'est... on peut se dire, mais enfin, quand même, les démons, ils disent vrai, puisqu'il est fils de Dieu. Alors, il rend service au Christ, finalement. Donc, du coup, c'est quand même bizarre que le démon rende service au Christ. C'est un peu gênant. Et du coup, aussi, pourquoi ils leur disent de se taire ? Puisqu'au moins, eux, ils le disent, tandis que les apôtres ne sont même pas capables de le dire. Les démons disent ce que les apôtres ne sont pas encore capables de dire. Alors, est-ce que les démons sont plus forts que les apôtres, sont de meilleurs serviteurs que les apôtres, puisque les démons le disent. En plus, ils se prosternent devant lui, donc ils sont parfaits, ces démons, en fait. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus leur dit de se taire ? C'est ça qui est derrière la question. Et un peu notre malaise, en fait, en face de ça. Alors, du coup... Il faut aller un peu au bout... Enfin, moi, ma manière d'aller jusqu'au bout du truc, hein, il peut y avoir d'autres manières d'interpréter, c'est que, en fait, c'est pas la parole en elle-même qui a du poids. C'est qui l'a dit. C'est ce qui se... D'ailleurs, c'est ce qui se dit dans l'Évangile, juste avant, quelques versets avant. Jésus est celui qui enseigne avec autorité. Ça veut dire quoi, cette autorité ? Ça vise en fait sa personne, c'est qui il est. On voit bien, il y a des gens, un même discours, des mêmes mots, sont dits par des personnes, sont dits par d'autres, n'ont pas du tout le même poids, alors que c'est les mêmes mots qui sont utilisés. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la même vie, c'est pas la même personne. Donc évidemment, ça n'a pas du tout le même poids. Alors là, c'est pas seulement une question de poids chez les démons, c'est que les démons sont au service du menteur. Enfin, sont au service de Satan. Et donc, on sait très bien que les démons, ce qu'ils adorent, c'est tout ce qui est religieux, c'est tout ce qui est... Le démon, il est avant tout antéchrist. C'est le démon, il est avant tout celui qui se pare des atours de la religion pour faire le plus de mal possible. Parce qu'en plus, il s'en moque en faisant ça. Il se pare d'humanité, parce que c'est une manière double de la détruire, non seulement... C'est une ruse parce que du coup on ne le voit pas approcher, mais en plus il s'en moque en s'en servant pour la détruire. Donc c'est une arme à double puissance, on pourrait dire. Et donc c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut se méfier du religieux. Oui, en tout cas, il ne faut jamais lâcher le discernement. Qu'est-ce que je fais ? De quoi il en retourne ? Enfin, il faut. C'est pas parce que c'est religieux comme ça que. Pas parce que quelqu'un vous dit des belles paroles, qui, bien sûr, qu'il faut le croire, il faut vraiment... Et je trouve que cette époque est quand même extrêmement pénible pour nous aujourd'hui, quand même, pour l'Église, pour tous les chrétiens, c'est quand même un bombardement. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous vivez ça. Enfin, si, on a déjà eu un temps de parole ensemble sur ce sujet, qui était d'ailleurs très, très beau. Mais c'est dur, évidemment, pour tout le monde, puis c'est dur, quoi, c'est affreux. Mais au moins, je pense que ça nous apprend, enfin, à coup de bâton sur la tête, mais ça nous apprend à tous... à être prudent, à avoir du discernement, justement. Et je pense notamment à l'implication de la raison dans le dialogue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un chrétien qui est juste enthousiaste, sympathique et chaleureux. Ce n'est pas possible. Et convivial. Voilà. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, moins qu'à une autre époque. Il faut absolument qu'on puisse rendre raison, vraiment précisément, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, en disant sur quoi on s'appuie, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le veut, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, pour moi, Jésus dit « tais-toi », il dit pas « tais-toi » parce que « fils de Dieu, c'est faux », il dit « tais-toi » parce que tu es un démon. Je sais qui tu sers, je sais au service de qui tu es. Tu te tais, non seulement tu n'as pas de poids pour le dire, mais tu n'as aucun droit de le dire. Et ta parole ne peut que détruire, parce qu'elle vient de toi qui est un démon, qui vient de Satan. Donc, même les plus hautes paroles peuvent servir le dessein le plus criminel. Et ça, on l'a vu notamment chez les nazis, il y a des choses les plus abominables. Ou, je sais pas, ou à l'Inquisition, je vous renvoie au magnifique livre de Dostoïevski. Lisez les frères Karamazov et ce que dit le grand inquisiteur quand le Christ vient visiter l'Espagne. C'est fantastique. C'est de perfidie, c'est absolument abominable. Ça se part de tout ce qu'il y a de meilleur, de tout ce qu'il y a de plus beau. Tout est faux et criminel et vraiment toxique. Et puis, quelques pages après, vous avez le discours du Starets. Et là, vous avez 20 pages d'une liberté, d'une fluidité, d'une lumière extraordinaire. Mais c'est un discours qui est raisonnable, qui est rationnel. Et qui est surtout fondé sur la parole de Dieu et et dans l'esprit. C'est de Dieu, quoi, tout simplement. C'est de Dieu. Oui.
Oui, j'avais une question parce que qu'il n'y a pas quelque chose qui est un peu paradoxal dans le...
Le contraire m'étonnerait. Tout est paradoxe.
Oui, justement, parce qu'au début, il dit qu'il enseigne un homme qui a autorité. Oui. Donc, tu veux dire, par son statut, ce qu'il dit, ce qu'il dit est vrai, parce qu'il a tel statut qui est fils de Dieu. Mais à la fin, il dit qu'il ne faut pas dire qu'il est fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il. Comment dire ? Ça veut dire que ce n'est pas vrai. À la fin, quand il dit qu'il faut. Le dire, ce n'est pas vrai parce qu'il est le fils de Dieu, mais tout simplement parce que sa parole est la bonne. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ?
Oui, parce que, en fait, derrière autorité, ce que tu as en tête, c'est l'autorité du galon, en quelque sorte. Enfin, l'autorité du statut. Or, là, il ne s'agit pas de ça. Quand l'évangéliste dit « parle avec autorité », ce n'est pas ça qu'il vise, puisque, en fait, Jésus a une autorité humaine, c'est d'être pharisien, et d'être déjà un rabbin. Il est habitué à enseigner à la synagogue, à prendre la parole, nous dit le texte. Donc c'est vrai qu'il a ce statut déjà. Mais ce n'est pas ça qui vise l'évangéliste, là, l'autorité. Ce n'est pas en tant que pharisien, puisque d'ailleurs cette autorité du pharisien, elle est justement démolie par l'évangéliste qui dit « non pas comme les scribes ». Donc qui font partie justement de cette autorité religieuse en quelque sorte. Donc clairement l'évangéliste nous dit « c'est d'une autorité qui n'est pas de l'ordre de l'autorité religieuse, mais d'un autre ordre. Il ne dit pas lequel, d'ailleurs, mais il dit clairement ce n'est pas de cet ordre-là.
Est-ce que les rabbins ou les pharisiens
faisaient plus de étaient plus commentateurs que d'enseignements réels?
Ça, je n'ai pas de connaissances suffisantes là-dessus. Je pourrais pas dire. Ce qui est certain, c'est quand on entend un rabbin aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps encore, je l'entendais d'ailleurs. C'est vrai que c'est une manière d'enseigner qui est très différente de nous. C'est comme si ça tourne, en fait. Ça emporte de différents textes, différentes citations, et ça tourne, et ça tourne. Et on a l'impression d'avancer un peu comme ça, ou en tournant. C'est assez curieux. Mais bon, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ces questions-là. Je ne saurais pas trop vous dire. Alors, sur la communauté eucharistique, est-ce que, sur ce que je vous ai proposé, bon, à travers ces textes et mon exposé, comment vous réagissez, comment vous...
Moi, j'ai souligné particulièrement, nous avons souligné, nous sommes plusieurs dans le groupe, avoir souligné cette phrase, la communauté se construit où chacun se reçoit de l'autre, et recevant ce qu'il comprend de la parole. C'est-à-dire, la communauté se nourrit de la parole, mais il y a une dimension de partage. Oui. Il y a une dimension de partage et de vie, justement, qu'on n'a peut-être pas toujours entendu dans vos propos. Je pense qu'il y a un partage. On parle beaucoup, vous avez parlé beaucoup d'éducation. Mais
ah oui, ce soir.
Voilà. Mais le partage, c'est ce fait sur tous les niveaux de la vie. Mmh. Et une vraie communauté, elle partage, elle se nourrit de la parole, mais elle partage, elle vit ensemble. Donc elle partage les joies, elle partage les rires, elle partage le pain, elle partage la peine, et elle partage la joie aussi, bien sûr. Ouais,
c'est très important.
Et ça, je pense que, moi j'ai aimé dans cette phrase, c'est un lieu, une communauté se construit, mais elle se construit dans le vivre ensemble, en fait, complètement. Pas simplement dans la nourriture de la parole.
Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est le sens de l'autre partie, le service du corps, qui est, comme je vous le disais, un service très large. C'est-à-dire comment je vis avec l'autre, rappelez-vous ce que je disais, comment je vis avec l'autre, comment je suis présent à lui, comment nous soutenons, comment nous nous recevons les uns les autres, et comment nous pouvons être soi-même les uns devant les autres. Ça, c'est vraiment toute la partie ici du service du corps du Christ,
de ce service mutuel dans la vie commune, enfin...
Dans les parties de vie commune que nous partageons. Oui, absolument. Alors, c'est... Comment ?
Justement, ça ne se vit pas que sur le parvis. Ça ne
se vit pas d'abord sur le parvis, ça se vit vraiment au sein de la communauté eucharistique. Ah oui, absolument.
Ça se vit aussi à l'extérieur. Parce que ça ne se limite pas à ça. Le monde dans lequel on vit, je ne le sens pas trop présent, là.
Ah ben, il est... Là, ce que je décris, c'est...
Parce que
il n'y a plus de pile. Celui-là est mort. Non, non, tout le monde parle. En fait, il faut que tout le monde entende.
Oui, je disais que le monde dans lequel on vit n'était pas. Je ne le vois pas trop présent là. On est dans l'église, mais la périphérie, notre monde du travail, là où il y a quelque chose à construire, à apporter, à accueillir. Ça n'y est pas. Enfin, je le vois pas. Alors le autre, il y a un réducteur.
C'est autre manière d'être un parvis. C'est patronage, fraternité Emmaüs, et puis d'autres initiatives qu'on pourra prendre. Non, non, la vie autour, c'est vous. C'est pas à moi de la décrire. Moi, je suis pas dans le monde. Je suis dans ma paroisse. Je suis pasteur d'une paroisse. Donc mon souci, c'est d'aider à ce que la paroisse soit plus perméable, d'abord sache qui elle est, où elle va, de quoi elle se nourrit en tant que paroisse, en tant que communauté catholique, et en quoi et comment elle est perméable, elle est ouverte à ce monde qui l'entoure précisément. Voilà. C'est vraiment ça le point. C'est ce qui est ici, ouais, qui est ouvert, et là les flèches, elles viennent du monde, justement.
Je crois qu'elle a oublié que les flèches, elles viennent dans l'autre sens.
Dans les deux sens.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, c'est davantage, parce que c'est aussi mon travail, c'est la communauté en tant que telle. Après, bien sûr, vous êtes dans vos lieux de travail, vos familles, vos lieux de loisirs, et vous êtes chrétien là, et vous êtes le sel de la terre, en quelque sorte, la lumière du monde, comme le dit Jésus. Mais cela, vous l'êtes, ce que vous êtes, eh bien, vous l'êtes notamment en fonction de ce que vous vivez dans la communauté et comment vous vivez la communauté. Le chrétien, ce n'est pas une individualité, c'est une personnalité qui se construit dans une communauté et qui, du coup, va porter une présence particulière à l'extérieur. Quelqu'un qui est habitué, alors ça, bon, je l'ai vécu vraiment beaucoup, hein, quelqu'un qui a appris, qui est habitué, qui a du goût à écouter l'autre, à écouter sa parole, mais aussi qui est habitué et qui a du goût à rendre raison, c'est-à-dire à expliquer rationnellement, de façon concrète, sa foi au sein de la communauté, parce qu'on le fait dans les petits groupes, on le fait entre nous, eh bien va se trouver exercé pour pouvoir le faire ensuite au bureau. Je mets bien au défi quelqu'un qui ne le fait jamais d'être capable, comme ça, de pouvoir expliquer sa foi à quelqu'un. Enfin, il peut avoir toujours un coup d'esprit saint, mais honnêtement, humainement, en tout cas, ce n'est pas possible. Mais après, tout est possible dans l'esprit, mais humainement, ce n'est pas possible. Donc la manière dont vous êtes au bureau, dont vous êtes en famille, dont vous êtes dans vos loisirs, elle va être modelée, elle va être construite peu à peu par la manière dont vous êtes en communauté. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et je l'ai vu avec mes chrétiens, une fois formés, le vrai fruit de leur formation, c'est pas de savoir plein de choses, c'est de ne plus avoir peur de parler de sa foi, et même de trouver de la joie en parlant de sa foi. Non pas en montant sur une caisse et en allant avenue Carnot parler à tout ce qui passe, mais simplement en pouvant répondre paisiblement, heureusement, aux questions qu'on nous pose ou dans les conversations informelles qu'on peut avoir. Comme j'ai eu avec M. Trigaudet, là, tout à l'heure. Voilà. Donc c'est ça le fond. Hein. Ça va vous permettre d'être au monde, en fait, en quelque sorte, plus efficacement, que le grain de sel se dissolve plus davantage encore dans la soupe, si j'ose dire. Ça va ? Quelle différence faites-vous? Les gens, ils ont besoin de comprendre. Hein.
La foi, vraiment.
Parce que les gens qui sont sympathiques, altruistes, y a des musulmans qui sont sympathiques, qui aident les autres, qui ont des vies de famille exemplaires, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être ça. Des personnes qui aident, qui sont au service de grandes causes humanitaires. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour faire ça. Enfin, je veux dire, il y a des francs-maçons qui le font très bien. Donc, le témoignage à ce moment-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je le fais au nom du Christ. D'accord? Donc, on met en concurrence le Christ, Mahomet. Alors, qui fait le plus de bien? Alors, on va demander pour savoir. Non, ça ne marche pas trop. Donc, en fait, il faut simplement dire, mais c'est d'expliquer. Le Christ, c'est qui pour toi? Pourquoi c'est si important? Pourquoi le Christ? Donc, tu dis qu'il est au cœur de ta vie. D'accord, mais explique-moi. C'est un gars qui a vécu il y a 2000 ans, on n'est même pas sûr qu'il a existé. Alors je ne comprends pas du tout pourquoi tu me dis qu'il est au cœur de ta vie. Ou alors c'est son message, c'est ses valeurs. Ah bon, très bien, alors dis-moi les valeurs. Il y a des gens qui vont dire, moi je suis franc-maçon, ces valeurs-là, c'est aussi les miennes. Hein. Donc on voit bien, voyez, il va y avoir un débat de valeurs éventuellement. Mais voilà, c'est ça, le témoignage c'est quoi? Combien de fois j'ai entendu vous savez, moi, mon père, je connais des musulmans qui sont bien meilleurs que les bons cathos qui sortent de la messe. C'est le truc. On l'entend un peu moins maintenant, mais c'est le genre de truc. Bon, moi, je dis rien quand c'est comme ça. Je me tais parce que, bon. Mais on comprend bien ce qu'il y a derrière, en fait, qui est très profond et très important. Ça veut dire, en fait, ce qu'il y a derrière, ça veut dire quoi être catholique? Ça veut dire être chrétien. C'est ça ce qu'il y a derrière. Pour moi, et puis après, le cran au-dessus, c'est d'être capable d'en parler aux autres. Ça, c'est un autre cran. C'est pas si simple. Même à sa propre famille, même à ses propres petits-enfants. Mamie, pourquoi tu vas à la messe? Ou mamie, pourquoi on doit se marier à l'église? Bon, non, bah, écoute, je suis très bien, moi, avec Jocelyne. Pourquoi je me marie à l'église? Enfin, vraiment. Ah, mais bon, quand même, mon garçon, rappelle-toi, t'es quand même ta famille est chrétienne, ta famille est catholique. Enfin, on s'est tous mariés à l'église. Oui, d'accord. Bon, ben moi, j'ai envie de faire autrement. Et pourquoi toi, tu fais comme ça? Ou autre chose. Ou, vous voyez, on va vous demander, comme il n'y a plus le support de la tradition, si vous voulez, de ce qui est normal, de ce qui est social, on est renvoyé forcément à justifier nos choix, nos positions. Et du coup, ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Même pour des choses qui allaient de soi il y a 50 ans, aujourd'hui, c'est plus simple du tout. Enfin, à la fois c'est plus simple et en même temps c'est très simple. C'est-à-dire que, enfin, faut s'y mettre, quoi. Il faut tout ça, quoi. Il faut se mettre en route dans tout ça. Et puis très vite, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout la somme de connaissances cumulées qui va vous rendre fort pour répondre. Ça, c'est le gros piège. Vraiment, c'est pas ça. C'est l'exercice. C'est le fait que vous vous exerciez à écouter l'autre dans sa foi et à lui parler de votre foi. C'est vraiment une question d'exercice, plus que de connaissance. Vraiment. Donc ça peut venir assez vite, finalement. Pas tout de suite. Je dirais qu'il faut un an ou deux, selon le rythme où on le fait. L'exercice. Mais en fait, l'exercice, s'il est juste, tout de suite, il donne de la joie. Très vite, il libère le cœur. Il donne de la joie. Très, très vite. Et il donne assez vite aussi une certaine assurance, enfin, une certaine... Enfin, que vous avez dû goûter. Bon, on va en parler au bilan la semaine prochaine, mais je serai très très impatient de vous entendre sur il y a des choses qui se passent. Mais ce qui se passe aussi, c'est le débat intérieur. C'est la, il y a des forcément et c'est normal. C'est-à-dire que ça vous travaille. Il y a des résistances intérieures. Il y a une part de vous qui dit non, et c'est normal. Il y a une part de vous, même, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des trucs, c'est tout à fait normal. C'est tout sauf neutre. Et donc, même des personnes qui pouvaient se croire très assises dans leur foi ou dans leur religion, et en étant bien tranquilles, eh bien, c'est remis en cause, c'est bousculé, les lignes changent, et en fait, ça travaille au fond. Ça, vraiment, ça, je l'ai vu à chaque fois. Les conflanais ne peuvent pas être différents, ou des andrésiens ne peuvent pas être différents des autres. Vous êtes des hommes comme moi et comme nous tous. Et donc, forcément, il y a ça qui se produit. Et c'est très bon signe. Enfin, quand ça bouge comme ça, c'est très, très, très bon signe. Ça veut dire que, justement, là, il y a un chemin qui se met en route. Et... Bon. En tout cas, voilà. Merci pour votre confiance et votre écoute.
Tu as parlé du saint.
Ah oui, merci. Oui. Tu veux en dire un mot?
Parce que donc le 5, on fait le bilan de tout ce qu'on a fait pendant ces 15 séances. Et le rendez-vous suivant, il faut qu'on en parle dès maintenant, il faut que vous le disiez autour de vous, c'est le 25 février. Et le 25 février, ça serait important qu'on soit le plus nombreux possible. Alors c'est un mardi, faites bien attention, c'est pas un mercredi, c'est le mardi 25 février. Et là, ça sera un moment d'envoi. Voilà, on va essayer de dévoiler ensemble ce que peut être une fraternité Emmaüs et ce que peut, comment ça peut configurer la paroisse. Donc, parlez-en autour de vous, ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus pendant ces 15 séances. Il faut qu'on aille bien au-delà de ce qu'on est ce soir, même bien au-delà de ce qu'on était le premier jour. Hein. Et que ce soit des gens qui fassent déjà partie d'une équipe dans la paroisse, une équipe de partage, ou d'autres qui sont nulle part. Voilà, donc invitez très largement le 25 février. La prochaine fois, le 5 février, on vous demandera, par petite table, de donner votre email.